Podcast. La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberghien.
Le guide des couples infertiles, pour en parler avec nous, Audrey Leblanc et Audrey Malfione, bonjour.
Bonjour.
Et pas plus tard que ce matin, était publié dans la presse un mémo consacré à Elton John qui s'est offusqué, Elton John, de propos tenus par Domenico Dolce de la marque Dolce & Gabbana. Et Domenico Dolce, et quand ça se montre que quand les artistes ont un avis sur tout, ce n'est pas toujours le bon, Domenico Dolce qui s'est donc fendu dans cet article de qualifier les bébés conçus par fécondation in vitro de bébés synthétiques. Voilà, nous sommes donc en 2015 et ça montre à quel point le guide des couples infertiles chez Care Edition est véritablement le bienvenu. En tout cas, vous avez énormément d'humour, Audrey Leblanc et Audrey Malfione, et il en faut pour entendre ce genre de choses,
oui,
je pense.
Oui, avoir un petit peu de recul, oui.
Du recul, vous en avez pris, l'une en écrivant, l'autre en dessinant, et je dois dire que pour une fois, les illustrations sont véritablement porteuses de textes elles-mêmes, de messages elles-mêmes. Elles ne sont pas juste là pour faire l'illustration d'un propos. Les quatre mains sont évidentes et c'est une des premières fois que je vois qu'à ce point, le dessin complète le discours et parfois même l'enrichit d'une certaine façon. Donc vraiment, je voulais souligner ce travail. Un livre très drôle, et vous le dites, et on comprend à quel point cet humour vous a sauvé tout au long de votre parcours à toutes les deux, parce que vous avez été concernées toutes les deux, c'est
oui.
ça, hein,
si j'ai bien compris. Même au présent.
Au présent. Donc, et cet humour, il est nécessaire et indispensable. Si vous n'aviez pas eu cet humour, vous pensez, Audrey Leblanc, que vous auriez arrêté à un moment donné dans votre parcours de fécondation
Alors, je ne sais pas. Par contre, je pense que ça aurait été encore plus dur. Parce que c'est vrai que de pouvoir en rire, ça aide, ça soulage, ça permet de relativiser un petit peu. Si j'avais pas eu cet humour, écoutez, je ne peux pas vous le dire parce qu'en fait, je l'ai. Donc,
en fait, moi, j'ai été assez surprise en réfléchissant après la lecture de cet ouvrage de m'apercevoir que ces dernières années, il y a quelques livres qui sont sortis qui racontent des parcours, qui sont des témoignages de parcours de procréation médicalement assistée, qui utilisent justement cet humour et qui soulignent aussi l'aspect. Ce n'est pas parce que c'est entré dans les mœurs ou que c'est entré dans les hôpitaux que c'est facile, que c'est évident et que tout le monde le vit bien. Ce qui est un peu l'image qui a été peut-être véhiculée ces dernières années. Donc ces livres remettent un peu les choses aussi en perspective en montrant à quel point aujourd'hui ça reste effectivement, comme vous le dites, non seulement un parcours du combattant, mais dans vos 10 règles, dès le début du livre, vous dites, si vous voulez entamer ce parcours, il va falloir répondre à ces 10 règles. Et notamment, la première, je l'adore, c'est éliminer tous vos amis. Parce que eux, elles vont tomber enceintes, eux, ils n'auront pas de problème. De toute façon, ils vont vous dire que des bêtises tout au long de ce parcours. Vous avez des amis encore, rassurez-moi.
On les a tous gardés.
Ce qui montre à quel point c'est effectivement, c'est un besoin aujourd'hui de remettre un peu les choses en perspective, de se dire, c'est bien, ça existe, c'est très bien fait, c'est bien entouré aussi, médicalement, c'est pas mal. Mais quand même, ça reste un parcours très compliqué et très difficile à vivre.
Mais en fait, c'est encore un domaine qui est plein de mythes. Donc nous, on avait vraiment à cœur de déboulonner ces mythes. Il fallait absolument, on pouvait plus entendre les phrases toutes faites qui sont incroyablement culpabilisantes. En fait, on a déjà assez à faire avec la lourdeur du parcours, sans en plus être le réceptacle des angoisses des uns, des reproches des autres. Il fallait, on a trouvé que l'humour, c'était quand même un moyen pas mal pour faire passer le message, parce qu'on peut pas évidemment se mettre à dos tout le monde. Donc effectivement, on a gardé tous nos amis, mais il a fallu remettre un peu les choses, voir les choses en tout cas telles qu'elles sont dans la réalité, et arrêter de se faire des films sur ce qu'est la PMA et l'infertilité,
et ramener de l'humanité aussi derrière tout ça.
Oui.
Parce que c'est ce qui manque peut-être le plus quand on traverse ce type de parcours, c'est ramener l'humanité. Il y a une chose qui traverse tout le livre, tous les dessins également, c'est que vous dites à chaque instant de cet ouvrage qu'il ne faut jamais s'oublier dans la PMA et dans ce parcours, et qu'il faut toujours penser à soi à plein de moments en fait.
Et c'est extrêmement difficile parce que ça prend tellement de place dans nos vies, dans nos corps, dans notre couple, que c'est très facile de ne vivre que plus que pour la PMA ou ouais. par la PMA. Et elle est là tout le temps. Enfin, je veux dire, vous sortez dans la rue, vous voyez des femmes enceintes, ben, bam, oui. vous oui. souvenez que vous êtes infertile. Vous allumez votre télé, il y a une pub pour les petits pots, bam, vous souvenez que vous êtes infertile. Mmh. Et donc, oui, et puis, je pense qu'il faut qu'on... qu'on s'oublie pas et qu'on prenne soin de soi parce que les autres feront pas pour nous, donc il faut qu'on se cajole en fait.
Oui. Et se cajoler, se respecter aussi et s'admirer quelque part, hein, parce que tout au long de l'ouvrage, vous le dites, hein, on passe quand même par là quand on fait la procréation médicalement assistée, et l'air de rien, ben ça demande du courage, et ce courage, faut le souligner, et il faut en être conscient qu'on a du courage.
Oui, parce que souvent on entend dire, moi-même, je l'ai dit, on choisit pas d'aller en PMA. Alors, c'est vrai, d'une certaine façon, on choisit pas d'être infertile, en tout cas. Maintenant, si quelque part on fait le choix de dire, il y a ça qui existe, on va le tenter et voir si ça marche. Si on a de la chance. On pourrait très bien, il y a des couples qui décident, on est infertile, mais on fera pas appel à la médecine pour nous aider. On passera soit par adoption, ou soit on aura une vie sans enfant, peu importe. Et donc, bien sûr, puis bon, c'est encore une fois, c'est nous qui sommes en première ligne. Et puis, il y a une énorme pression de la société pour avoir des enfants. Et quand on n'en a pas, c'est toujours un peu bizarre. Surtout nous, les femmes. Donc, oui. En plus, c'est pas choisi, ça devient vite lourd, quoi.
On va revenir dans quelques instants, Audrey Leblanc et Audrey Malfionne. Je rappelle que vous êtes les auteurs de ce guide des couples infertiles chez Care Edition. Sur l'environnement aussi médical, parce que, pour en avoir fait plusieurs émissions, je sais qu'ils sont pleins de bonne volonté pour véritablement aider ces couples, tels que les vôtres, à pouvoir avoir accès à cette maternité, cette paternité. Et malgré tout, cela reste des embûches. Et vous avez une phrase assassine sur les gynécologues que j'adore.
Ah bon ?
Des études très sérieuses ont démontré que le gynécologue est un pervers polymorphe qui a réussi dans la vie. J'adore, voilà. Et on va y revenir dans un instant.
Véronique Thiberguien, question clé. Jusqu'à midi sur la première.
Avec Audrey Leblanc et Audrey Malfionne, le guide des couples infertiles, c'est paru chez Care Édition, dans la collection Témoins du Monde, Témoins de la vie, je dirais ici, véritablement, hein, parce qu'on est dans ce cadre-là. Alors, vous en profitez, et là aussi je trouve que c'est très original, parce que vous avez eu affaire à la Belgique. J'imagine que vous vous êtes renseigné aussi pour savoir comment ça se passerait si vous deviez passer en Belgique. Donc du coup, on retrouve des informations qui sont à la fois françaises, mais aussi qui concernent la Belgique. C'est donc véritablement un livre dans lesquels les auditrices belges ou les auditeurs belges pourront très bien se retrouver. Vous faites aussi le point sur ce qui existe, les différentes méthodes, les différentes raisons aussi pour lesquelles on parle d'infertilité, les différentes causes qui existent et que l'on peut analyser, mais toujours quand même avec ce trait d'humour qui vous est particulier à l'une et à l'autre, autant dans le dessin que dans l'écriture. Et vous rappelez à quel point la procréation médicalement assistée reste quelque chose de finalement très déshumanisé, même si les équipes médical aujourd'hui essaye véritablement de mettre en avant cet aspect humain en organisant des équipes multidisciplinaires autour des couples infertiles et pouvoir venir donc les aider tout au long de ce parcours. Pas toujours évident donc de vivre dans l'attente d'avoir un enfant, entre ces batteries d'examens et autres. Le moral des parents n'est pas toujours au beau fixe, et c'est partant de ce point de départ que l'ASBL Tearanga a mis en place un projet PMAR à l'hôpital Erasme. Explication avec Vanessa Sommeville, la psychologue de l'équipe PMAR.
Dans notre association PMA, on travaille en partenariat artistes et psychologues ou psychothérapeutes, dans l'idée qu'il y ait vraiment, voilà, si on fait un atelier d'écriture, ce soit une auteure qui travaille avec les participants. Donc il y a vraiment, voilà, une démarche d'acquérir aussi une certaine technique artistique, mais de pouvoir aussi, du coup, exprimer autrement ce qui se passe, exprimer autrement cette attente ou cette difficulté, de sortir de l'isolement aussi, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes confrontées à cette difficulté d'infertilité ou à la procréation médicalement assistée se sentent relativement seules par rapport à ce qu'elles vivent. Et donc de pouvoir rencontrer d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés, on espère que ça puisse être un moment de partage et d'échange.
Ce côté humain est très important. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans un aspect purement médical.
Je pense que les équipes médicales, pour les avoir rencontrées, les infirmières, oui, sont très humaines, et en tout cas autant que cela puisse être dans une procédure qui est justement extrêmement médicalisée. C'est pas du tout l'attitude des équipes qu'on remet en question, mais simplement c'est une part intime de soi qui est passée au microscope. Et voilà, il n'y a pas non plus le temps pour forcément poser et déposer ça. Quand voilà, vous allez pour faire vos rendez-vous pour une injection, pour un prélèvement, pour une fécondation in vitro, une insémination, etc. Nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de pouvoir offrir un espace et un temps dédié à ça. Un moment où se poser. L'idée était aussi vraiment de pouvoir remettre ce parcours-là, le réécrire dans le parcours de vie. Voilà, c'est une étape de vie, c'est un moment de la vie. Il faut que ça puisse prendre place dans l'histoire de la vie, dans la narration. Il y a la part créative et puis à travers cette création, il y a l'aspect plus expression de soi, le débriefing qui n'est jamais bien sûr obligatoire. On en dit ce qu'on veut aussi de ce qu'on a réalisé, une mise en mots aussi, mais qui permet un certain détachement, une prise de distance parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi dans ma pratique, c'est que c'est une procédure extrêmement longue souvent et qui est tellement prenante que l'on finit par s'enfermer. Enfin, on est enfermé dans cette procédure et donc on, voilà, on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau quand la procédure médicale est lancée et la mise en mots permet parfois de mettre un peu de, de se mettre un peu à distance de ce qui est en train de se passer et de voir que la vie peut aussi tourner autour d'autres choses. On a eu quelques patientes qui étaient intéressées. À différents moments, on va dire. On a un accueil très positif des professionnels. Donc, on est soutenu par l'équipe d'Erasme qui a vraiment accueilli notre projet très favorablement. L'équipe infirmière vraiment fait le relais de nos ateliers. Donc là, voilà, on démarre. Hein. Ça fait très peu de temps que, donc depuis le 1er mars, au fond, qu'ils ont proposé de nous accueillir dans leurs locaux. Et j'ai régulièrement, au fond, des psychologues qui me contactent parce que, voilà, effectivement, ils travaillent avec des femmes qui sont dans ce type de situation et qu'un lieu pour pouvoir déposer autrement leur paraît intéressant.
C'était donc Vanessa Sommeville, la psychologue de l'équipe PMR, au micro de François Némette. Si les ateliers d'écriture, de photos, de théâtre vous intéressent et que vous n'êtes pas particulièrement aujourd'hui, en tout cas, vous devez être dans cette démarche de PMA, mais que vous n'êtes pas forcément à Erasme, vous pouvez toujours quand même vous inscrire et obtenir les informations auprès du site tearanga.be. Je le disais, les équipes médicales mettent du leur, mais malgré tout, l'aspect déshumanisant des examens, on pourra jamais le changer, mais ce que vous dites dans le livre, c'est qu'il faut quand même en être conscient. Faut juste en être conscient. Voilà. Faut savoir à quoi on va avoir affaire et pouvoir l'affronter par la suite et pouvoir le vivre aussi au moment où on le vit et puis l'après également. Audrey Leblanc et puis peut-être Audrey Malfienne.
Oui, il y a effectivement, encore une fois, on entre dans notre intimité, pour, normalement, la nature avait prévu qu'on soit deux pour faire un enfant. Bon, là, on est toute une équipe. Donc, il y a le médecin, les infirmières, l'échographe, voilà. Oui, c'est un milieu froid. C'est pas effectivement pas la faute du personnel, mais c'est oui, on n'est jamais très content de se lever à 6 heures du matin pour aller faire une prise de sang et passer une échographie. Mais voilà. Et moi, je trouve ça intéressant, justement, l'initiative PMR, parce que ça, quand on est infertile, ce qu'on entend, c'est qu'on n'est pas capable de faire comme les autres.
On est dans la création, justement.
Et là,
dans
justement, la capacité on devient créer. Capable de faire autre chose. Ouais.
André Malfienne.
Oui, les équipes médicales, en fait, moi, j'ai l'impression qu'elles sont surtout dans l'efficacité. Il faut un résultat et on peut pas être au four et au moulin. Donc, les gynécos peuvent pas faire le boulot d'un psy. Et les initiatives dans la sphère psychologique, elles sont encore anecdotiques, en tout cas en France. Donc, il y a certains centres mettent au point des groupes de parole, des choses comme ça, et c'est hyper important d'arriver effectivement, donc comme disait la personne du reportage, à se sociabiliser déjà autour de ça et à rendre quelque chose de positif, à sortir quelque chose de créatif de ce parcours-là, qui va de toute façon faire partie de notre vie maintenant, quoi qu'il arrive et quel que soit l'aboutissement. Et nous, c'est vrai que ça a été ce bouquin-là. Enfin, typiquement, c'est cette initiative-là qui nous a sauvés, entre guillemets. Mais tout est bon à prendre. Hein. Donc oui, les psychothérapies, les groupes de parole, des initiatives artistiques, oui. Parce que les gynécos peuvent pas tout mener de front.
C'est vrai que vous en parlez aussi hein, dans cet ouvrage, des choses qu'on va essayer à un moment ou un autre, parce qu'il faut sortir sa tête hors de l'eau. Ces moments de pause aussi que vous vous obligez à vous octroyer entre deux essais, parce qu'il faut que le corps reprenne, mais il faut aussi que l'esprit reprenne et que le couple reprenne. Le couple qui encaisse pas mal aussi, hein, dans l'ouvrage, on le voit. C'est quelque chose que véritablement vous partagez. Et puis il y a les autres qu'il faut gérer. Je parlais du gynécologue, parce que vous parlez du gynécologue de manière très drôle aussi. Hein. Vous dites qu'il y a l'empathique, il y a le frigo, enfin, je ne sais plus comment vous le dites, mais c'est quasiment ça. Et entre les deux, il y a toute une série de caractères auxquels vous devez faire face malgré tout. Puis alors, dans les autres, ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont autour de nous, il y a ceux qui font des petites phrases assassines, pleines de bonne volonté et de bons sentiments, mais qui restent assassines. Quand on vous dit, et vous, quand est-ce que vous vous y mettez, c'est dans la tête, arrête de penser, parce que comme ça, ça viendra plus vite. Oh, oui. Ça va marcher, il n'y a pas de raison. Vous n'avez qu'à adopter, il y a tellement d'enfants malheureux. Et oui. J'en passe. Et on est en 2015, vous avez vraiment entendu tout ça ?
Ah oui, oui. Mais, je t'en prie.
Le truc, c'est que la fécondation in vitro, elle a une trentaine d'années. Ça a l'air, on se dit, bon... et en fait, ça reste récent dans l'esprit des gens. C'est, donc, il y a énormément d'idées préconçues sur ce que c'est que la PMA. Et puis, je crois qu'en plus, il y a un peu encore l'idée que ça arrive pas par hasard. L'infertilité, hein, c'est que quelque part on doit être un peu responsable, voilà. Donc d'où l'idée que c'est parce qu'on y pense trop ou que, enfin voilà, c'est.
Bah, cela dit, maintenant vous rappelez aussi, il y a 10% effectivement des couples dont la fertilité est avérée, mais pas explicable. Voilà, ça reste, mais ça n'est que 10%, donc ça veut dire que ça reste 90% des couples qui sont infertiles et pour lesquels il y a une explication et donc pour lesquels ça sert à rien de dire.
Non, mais même pour cela, hein, il va y avoir une.
Oui.
On va vous trouver une cause psychologique forcément.
Mais de toute même pour les couples, non, il n'y a pas de cause connue. On ne sait même pas si c'est. Enfin, justement, on ne sait pas. Donc, on peut penser que c'est psychologique. On peut aussi penser que c'est une cause physiologique qu'on n'est pas encore capable de déceler parce que la médecine n'a pas suffisamment progressé. Et c'est pour eux que c'est plus dur d'ailleurs parce que je pense que nous, on peut mettre notre cause d'infertilité biologique en avant, mais pour eux, ils n'ont pas. Quand ils s'entendent dire c'est parce que tu y penses trop.
Pas d'argument pour dire que
ils n'ont pas d'argument pour dire que... Oui, exactement.
Et puis ça travaille aussi à ce moment-là dans l'esprit. Ces fameux autres donc, dont vous finissez par faire un tri, parce qu'en plus, c'est quand vous apprenez que vous êtes infertile que toutes vos copines tombent enceintes.
Et oui.
Hein, ça fait toujours aussi beaucoup de bien. Mais vous ne concluez pas ce livre sous une forme d'happening non plus. J'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Où vous dites, eh bien, il y a des moments où ça marche, il y a des moment où ça marche pas, et puis il y a des couples qui abandonnent et qui décident finalement de ne pas avoir d'enfants. Et vous avez tout un chapitre où vous revenez sur les avantages de ne pas avoir d'enfants. Je trouve ça plutôt drôle. C'est on mange des sushis quand on veut parce qu'on n'a pas peur d'être malade. On peut caresser son chat quand on veut parce qu'on n'a pas peur qu'il nous refile la toxo. Mais bon, il y a tout un développement qui est fait et qui est assez drôle. Et c'est vrai que quelque part, vous le dites aussi, il y a toujours un moment donné où on finit par se poser la question finalement, est-ce que tout ça vaut la peine ou pas, et que vous comprenez qu'il y ait des couples qui abandonnent.
Et il y a aussi des couples qui arrivent au bout de leur parcours et qui, pour qui on peut, enfin, on n'a plus rien à proposer. C'est ça aussi le problème. Fertile, infertile, j'aime pas faire les mettre en opposition, mais c'est en fait la société voit la PMA par le prisme de la réussite et des avancées médicales qui sont phénoménales et donc se disent bon ben voilà, les avancées sont géniales, évidemment il suffit de faire une FIV et puis c'est bon, et en fait c'est tellement plus compliqué que ça. Et ça c'est encore un problème parce que on voit juste ça sous l'angle de la victoire et c'est elle n'est pas toujours au rendez-vous.
Et alors, je ne vais pas tout dévoiler, parce que je ne veux pas. Il y a vraiment des choses à savourer dans cet ouvrage, véritablement. Vous avez réussi à mettre en avant à la fois l'humanité, la douleur, l'incapacité, l'incompréhension, mais aussi tout l'amour quand même que vous gardez autour de cela, à la fois pour vous-même dans votre couple, et on comprend que c'est difficile de garder tout cet amour. Et puis, vous dites que vous aurez une force supplémentaire, c'est que quand il aura 12 ans, ans et qui vous enverra chier parce que vous lui refusez un cadeau, vous pourrez vous dire, avec tout mon passif, ça valait quand même la peine. Que nous, on aura peut-être du mal à se le dire, qu'on aura plus envie de les foutre à la porte à ce moment-là. En tout cas, bravo à toutes les deux et je propose aux auditeurs de vous rencontrer à l'occasion de deux rencontres le 17 mars et le 18 mars. Le 17 mars, c'est à l'UOPC, pardon, à Oudergem à 18h et le 18 mars, ça sera à Uccle, à la librairie de la Licorne à 18h30 et vous serez accompagné à chaque fois aussi d'un représentant médical qui sera là pour vous soutenir également dans cette rencontre. Donc allez-y, c'est à Bruxelles, on met tout ça en lien sur le site lapremiere.be. Merci madame
merci,
et bravo à vous pour votre travail. Bon courage pour la suite et on se retrouve dans un instant. Mille merci à Sandra Varas et à Pierre Devalet bien sûr pour la mise en onde de cette émission. On se retrouve demain si vous le voulez bien.
Podcast La Première.